Heureux ce matin d'être là autour de la parole de Dieu pour faire un partage en même temps de cette parole. Et j'aimerais continuer avec ce que j'avais commencé il y a quelques semaines, la révélation de la croix dans notre marche de chrétien. Cela me paraît important. Et je crois que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que un jour nous avons eu la révélation. C'est-à-dire à travers un témoignage, à travers la parole de Dieu, à travers ce que Jésus a fait, et que nous avons réalisé que nous étions des pécheurs et que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Et c'est ainsi que les uns et les autres, nous sommes, et je l'espère du moins, entrés dans le salut, entrés par grâce, bien entendu, parce que ce n'est pas à cause de nos mérites que nous sommes ici ce matin, mais à cause du don de Dieu qui nous a été fait en la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais aller un petit peu plus loin, dépasser, j'allais dire, ce qui pourrait être religieux dans notre propre vie, et ce qui peut être aujourd'hui, j'allais dire, comme une vraie marche, en étant conscient que notre départ de vie chrétienne a commencé à la croix. Alors que le Seigneur soit béni. J'aimerais lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, du verset 1er au verset 16. Alors c'est un texte qu'on connaît bien, puisqu'il nous parle de la nouvelle naissance. Et donc, mais j'aimerais ce matin parler un petit peu de cela. Quelqu'un peut-il me faire de la lecture, ou même à plusieurs, soyez libres de me faire de la lecture, là moi j'aime bien entendre.
Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, il vint trouver Jésus de nuit et il le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous, pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui.
Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois Dieu ?» s'éclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surprise si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser ?
Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ?
Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle.
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle.
Amen. Gloire à Dieu. Tu nous as lu ça dans quelle version ? La Semeur. Bien. Donc je pense que c'est aussi un texte fondamental pour nous ce matin. Parler de la nouvelle naissance. Parce que c'est le départ de notre vie chrétienne. D'ailleurs, Jésus va dire à cet homme, Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourtant, cet homme connaissait la loi. Et là, il entend un langage nouveau. Le Seigneur est en train de révéler à Nicodème une vérité qui pour lui, jusqu'à ce jour, était difficile à intégrer dans son cœur, un docteur de la loi. Pensez donc. Il croyait tout connaître, cet homme. Il croyait tout savoir sur Dieu. Et quand on est habitué à raisonner d'une certaine façon, lorsqu'on a été pendant des années enseigné, et sans doute qu'il a enseigné d'autres avec lui et après lui, c'est difficile d'un seul coup d'avoir une optique différente. Donc, accoutumé à raisonner, j'allais dire, d'une manière terrestre, la loi, elle se lit, elle s'applique. Et là, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Oh ! Ce coup, on a comme si on avait changé de pays. On a changé de pays. Et ça, c'est une révélation. C'est une révélation pour Nicodème. Et j'ai envie de dire, c'est une révélation pour chacun de nous, pour toutes les générations qui vont venir après. Et il n'est pas étonnant que cet homme, d'un seul coup, est interpellé au fond de son cœur et il dit « Comment ? Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Très bonne question, bien. Très bonne question. Peut-il naître une seconde fois, entrer dans le sein de sa mère et puis naître ? Il y a quelque chose qui se bouscule dans ma tête, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui me paraît illogique. Alors c'est vrai que cela peut paraître une absurdité, hein, d'avoir ce langage-là. Mais nous savons bien combien l'œuvre de l'adversaire, Satan, eh bien dans les cœurs, cherche à étouffer la voix de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une révélation comme celle-ci, il faut vraiment l'œuvre du Saint-Esprit pour que nous puissions adhérer à cette parole. Et il faut quand même reconnaître que, j'allais dire, sans connaître Dieu, eh bien l'homme est mort. Il est mort spirituellement, il est peut-être vivant avec son sang, son corps et tout ce que vous voulez. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui me dépasse. Qu'est-ce que veut dire le Christ quand il dit que l'homme doit s'il veut suivre Jésus, puis il dit, ben, suis-moi. Mais il déraisonne cet homme. Il déraisonne cet homme. Comment suivre un homme qui me dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est encore plus absurde tout ça. Non mais imaginez, à l'époque, nous on comprend parce qu'on nous l'a déjà dit, expliqué parfois. C'est facile, mais pour cet homme, quand on est mort, on est mort. Il dit des morts qui enterrent des morts, ça s'est jamais vu, ça. Il faut vraiment une révélation de Dieu, vous ne trouvez pas à ce moment-là. Il faut que le Saint-Esprit fasse une grande œuvre dans le cœur de l'homme, de la femme. Oui, pour des hommes de notre génération et de celles qui sont venues tout de suite après, c'était une absurdité. C'est une absurdité. Et c'est vrai que la réponse de Jésus, elle est étrange. Laisse les morts ensevelir les morts. Et sûrement que cet homme aurait dû être très surpris, hein, par cette réponse. Et même tous ceux qui étaient là et qui tendaient l'oreille pour voir si Jésus ne disait pas des bêtises. Alors pour eux, c'était vraiment des grosses bêtises, là. Vraiment des grosses bêtises. Vraiment, ce Jésus-là, il déraille quand même. Il dit des choses qu'on ne peut pas recevoir, qu'on ne peut pas accepter. Non, non, tout cela, c'est impossible. Comprendre les choses spirituelles. C'est pas facile, ça, hein, comprendre les choses spirituelles. Comment comprendre ce que Jésus est en train de dire à cet homme ? Mais il est évident que si nous restons sur le plan terrestre, les réalités spirituelles et célestes nous dépassent. Elles nous dépassent. Il faut vraiment une révélation de l'esprit pour que nous puissions croire. Croire vraiment. Et c'est pourquoi, il y a quelques semaines, je disais que c'est vrai qu'on peut adhérer au christianisme. Parce que c'est moral, c'est bien, c'est aussi faire un petit peu comme tout le monde. Et on peut être séduit par des textes de la parole de Dieu et on adhère. Hein, on se dit, oui, c'est bien cela. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce que j'en suis vraiment convaincu? Et puis même si j'en suis convaincu, est-ce que moi-même j'en suis imprégné? Est-ce que chez moi, ça me pose interrogation? Où est-ce que j'en suis? Quel est mon positionnement? Quand on voit par exemple les disciples dans Matthieu 16, 13, 14, qui nous est dit, Jésus arrivé sur le territoire de César et de Philippe, il va poser ces questions à ses disciples. Au dire des gens, c'est-à-dire du qu'en dira-t-on qui traîne un petit peu partout, là, hein, j'entends des tas de choses. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Oh là là, là 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 là, c'est compliqué tout cela. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Les morts, quand t'es les morts, faut que tu naisses de nouveau. Mais c'est du charabia, cela. Pour le profane, pour celui qui arrive. On se dit, c'est pas avec des mots comme ça qu'il va pouvoir se convertir, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors ils répondirent, alors vous voyez, c'est les disciples qui suivent Jésus déjà depuis un certain temps, qui le voient faire des miracles, il dit des choses, il enseigne. Et puis, les uns disent, ben, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. En fait, sur les disciples, si chacun a répondu, il y a 4-5 réponses qui sont là où ils ne sont pas d'accord sur qui est Jésus. Alors vous vous étonnez qu'aujourd'hui il y a tant de religions? Ça pose question quand même. Hein. Même les disciples qui étaient là au pied de Jésus, qui marchaient avec lui tous les jours, ils mangeaient avec lui, t'es Jean-Baptiste. Alors, j'allais dire que c'était encore plus absurde. Hein. Tu es Élie. Ils sont dans les revenants. Hein. Jérémie, l'un des prophètes. L'évangile n'est pas encore annoncé, mes frères et sœurs. Mais l'évangile est en train d'être annoncé sur la puissance de Dieu, sur la puissante parole de Dieu. Et là, eh bien, il faut convaincre la pensée humaine. Il faut convaincre la pensée humaine. Il faut qu'il y ait cette révélation dans le cœur de l'homme. En réalité, qui est Jésus? Il faut une réponse à tout cela. Une vraie réponse. Il faut qu'il y ait un déclic qui se passe. Je ne peux plus raisonner, j'allais dire, humainement, terrestrement. Il faut que je raisonne spirituellement. Et je me dis, qui peut convaincre la pensée humaine aujourd'hui? Sans qu'il y ait des risques de dérive. Parce que là, on est dans la dérive, hein. Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es un des prophètes. Il n'y a aucune certitude chez les disciples.
C'est pas les disciples, hein. C'est la foule.
C'est oui. Les disciples qui disent ça. Oui, oui, mais il y a aussi les disciples. Oui, oui. Mais...
Parce
qu'il est oui. Non, d'accord. Hein. Mais c'était quand même une pensée courante qui circulait à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune certitude, aucune affirmation, aucune conviction, mais des idées, des déductions, et c'est vrai que tout cela peut entraîner des dérives et des pensées qui ne sont pas, j'allais dire, dans l'ordre spirituel des choses. La conversion au christianisme se fait par la seule force humaine, par la pensée humaine. Tandis que la conversion au Christ basée sur la révélation, révélation de la parole de Dieu, sur la révélation du Christ, sur la révélation du Père, hein, elle ne peut être faite que par l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux à la réalité du sacrifice de Jésus qui va être ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera. Et c'est ainsi que la foi, elle accompagne la révélation. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je crois à la puissance dans l'annonce de l'Évangile? Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui, même dans nos églises. Paul, l'apôtre, disait dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Et oui, vous parlez comme je viens de vous parler, il ne peut n'y avoir que de la confusion, et la foi ne peut pas agir. Il faut vraiment, à un moment donné, que cette parole soit puissante, qu'elle soit empreinte du Saint-Esprit pour pouvoir convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Oui, prêcher Christ crucifié sans la puissance de l'Esprit revient à présenter, j'allais dire, une histoire qui, semble-t-il, peut être très intéressante. Ça peut être un mythe fabriqué par les hommes, mais quand c'est la parole de Dieu, eh bien, il nous est dit qu'elle est folie. Elle est folie. Pour celui qui la prêche, elle est folie aussi pour celui qui la croit, parce que maintenant, ce n'est plus basé sur la lettre, mais sur la foi. Et c'est cela qui est important. Et je recite encore Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Et ça, c'est important. C'est pas seulement je crois parce que c'est écrit, mais je crois parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Il a inscrit sa parole dans mon cœur. C'est vrai que ce texte nous dit la lettre tue, c'est-à-dire que, j'allais dire, si nous en restons que sur la lettre, eh bien nous en restons que sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la loi. Et il est évident que ça ne peut pas nous faire grandir. On obéit à des textes, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bon, c'est écrit. Mais ça n'engage plus ma responsabilité. Alors que la foi me fait évoluer, me fait grandir. Hein. Et j'espère que depuis que vous êtes convertis, vous avez grandi dans le Seigneur. Vous n'êtes pas restés des bébés spirituels, mais que vous êtes devenus des adultes spirituels. Oui, parce que, j'allais dire, la lettre, bien entendu, elle peut être utile. Mais faut-il encore qu'il y ait la révélation de l'Esprit pour que nous comprenions ce qu'elle veut nous dire et comment je puis l'adapter à ma propre vie chaque jour. Parce qu'une religion, eh bien, elle vous oblige, comme je viens de le dire, à faire ceci ou à faire cela. Ou elle m'interdit de faire ceci ou elle m'interdit de faire cela. Lisez la loi, vous verrez. Si tu fais cela, tu vivras. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Et les hommes disent, mais de toute façon, on va tous mourir quand même. Mais tout dépend comment je meurs. Voilà. Et donc, notre conversion à Jésus-Christ, elle est fondée sur une parole de Dieu, mais une parole révélée. Et c'est l'Esprit qui nous révèle sa parole. Nous verrons après, un peu plus tard, hein, où Jésus dit à Pierre, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Hein. Donc, Pierre a fait des progrès. Il ne sait plus trop. Hein. Puis à un moment donné, il sait. Il sait exactement qui est le Christ. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, nous sommes introduits dans l'Esprit de la parole et par la foi. Et j'allais dire, sans exercer des efforts, j'allais dire extraordinaires, parce que cela vient de Dieu dans notre propre cœur et dans notre propre vie. Comme je le disais tout à l'heure, le monde chrétien est divisé. Et c'est vrai que la conversion, aussi comme je disais, la conversion au christianisme, eh bien, elle divise des hommes et les femmes. Il y a tant de mouvements aujourd'hui. Hein? 2500 religions. mouvements qui se réclament du christianisme. Alors vous y comprenez que certains n'y comprennent rien. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous... ceci ou cela? Mais oui. Et pourtant le Seigneur, il dit dans Jean chapitre 17, verset 21, son désir c'est qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et oui. Je le disais la dernière fois, la conversion au Christ, elle nous unit. Car l'Esprit Saint nous révélera jamais autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est notre foi dans la révélation du Christ qui nous unit, car nous sommes un en Christ. La première révélation de la croix que le chrétien reçoit, c'est celle de la nouvelle naissance. C'est cela qui est important. La nouvelle naissance. Oui. Quelle question pour cet homme ? La révélation, nouvelle naissance. Eh oui, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors c'est vrai, vous et moi, nous sommes nés de la chair. Nous sommes nés selon la chair. Notre esprit est mort aux yeux de Dieu. Mais à la nouvelle naissance, nous avons repris vie. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans notre corps de chair, hein, on a parlé. Hein, l'esprit de la chair est-il opposé à l'esprit de Dieu? Nous sommes charnels, car issus de la chair, nous avons hérité de cette nature marquée par le péché. Alors, bien entendu, hein, je vais vous dire ce matin, c'est la faute d'Adam. Hein? Ah non, certains vont dire c'est la faute d'Ève. Et oui, c'est pas mieux. Bien entendu, c'est notre faute à tous. Et c'est cela que la révélation montre. Hein, que souvent, on a tendance à rejeter la faute sur les autres, hein, alors que nous aussi. Et c'est cela, là. J'allais dire, le message de la grâce, c'est que chacun de nous, nous nous retrouvons en Dieu. Et c'est vrai qu'on verra peut-être plus tard les conséquences de la chute de l'homme sur son âme, sur son esprit, sur son corps. Nous verrons que l'homme charnel donne un héritage, sa nature charnelle à sa descendance. Oui, notre héritage en Adam, c'est la mort. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, « Tous... et comme tous meurent en Adam. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ils meurent à cause de la transgression d'Adam. C'est pourquoi nous sommes voués à la mort. Alors peut-être vous allez dire, mais je suis encore là vivant. Hein, quand on reprend, je crois dans les Galates, hein, vous êtes mort. Et pourtant on est bien vivant, mort spirituellement. C'est cela que ça veut dire. Vous êtes mort spirituellement. Et ça, c'est important. Notre esprit est mort. Mort à la révélation de Dieu. Et il reprend vie à la puissance de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus disait à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et d'esprit. Naître d'eau, certainement que Nicodème en connaissait la signification, puisque les pharisiens du temps de Jésus connaissaient le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance, donc ils savaient de quoi il en retournait. Et c'est pourquoi je dis que tout cela, c'est important dans notre marche chrétien. Et Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau, mais aussi d'esprit. C'est important. Tout cela, c'est lié. Pour Nicodème, naître d'eau voulait dire que par acceptation au baptême de Jean, elle se repentait devant Dieu et les hommes de ses transgressions, demandant le pardon et la grâce de Dieu. Alors en soi, on pourrait dire, ça c'est formidable, déjà arriver là, de reconnaître que je suis un pécheur, que je suis un misérable et que j'ai besoin du pardon de Dieu. C'est important. Et donc, Nicodème, sans doute, s'était peut-être fait baptiser du baptême de repentance. Et Jésus va lui dire, mais ça c'est bien, c'est juste. D'ailleurs, Jésus avait déjà dit ces choses en son temps, son baptême. Laisse faire ce qui est juste. Et Jésus va dire à Nicodème, il faut peut-être que tu ailles un petit peu plus loin de cela. Ton baptême, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu naisses de l'esprit. Là, tu as fait un acte qui pouvait être un acte de loi, et tu as obéi. Mais sais-tu à quoi ça t'amène? Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de l'esprit. Il ne faut plus que tu t'attaches, j'allais dire à la lettre, même si cela est important. Il faut maintenant laisser l'esprit agir dans ta propre vie, dans ton propre cœur. Il faut que Jésus est en train d'introduire dans le cœur de Nicodème, j'allais dire, cette révélation que le baptême, ben c'est sa propre mort qu'il a exécutée. Hein? Mais en même temps, c'est aussi sa résurrection. Et c'est pour ça que lorsqu'on pratique un baptême, eh bien c'est, hein, vous avez vu, hein, on ensevelit le corps dans l'eau, c'est-à-dire qu'il meurt à son ancienne nature et il renaît à sa nouvelle vie, en esprit et en vérité. Je dirais même plus encore, il lui ne dit pas seulement de naître d'eau, mais également d'esprit. Nicodème, avec son enseignement de docteur de la loi, avait du mal à arriver à cette révélation-là. Il était sous la loi, et non sous l'esprit de la loi. C'est cela qui est aussi important. Toute la différence, hein, j'allais dire, entre un chrétien charnel et terrestre, et un chrétien marchant par l'esprit, se trouve simplement résumée ici. L'un n'arrive pas à rentrer dans la révélation, et je dirais même, parfois, il ne le souhaite même pas, restant ainsi sous la loi, et l'autre marche dans la révélation et avance dans sa marche avec le Seigneur. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus parlait-il de naître également de l'Esprit ? Le baptême par lui-même ne suffisait-il pas? Pour cela, il faut savoir ce qui se passe chez une personne qui accepte Jésus dans son cœur. Et j'ai envie de dire plus, j'aimerais changer le nom de Jésus, Hein, on a beaucoup chanté tout à l'heure. Mais j'aimerais mettre le mot Christ. Parce que ça a une signification profonde. Et l'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 15, c'est pourquoi il est écrit. Hein, Jésus se réfère aussi à la lettre. Et il donne la parole. Il dit, le premier homme, Adam, il devint un être vivant. Et le dernier Adam, il est devenu un esprit vivifiant. Avec le premier Adam, nous avons reçu la vie dans la chair. Mais nous avons bien compris les uns les autres que par la chute, eh bien, cette vie est marquée par le péché et la mort. Alors, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Dieu a donné à l'homme la conscience de savoir ce qui était bien, ce qui était mal. Ça n'a pas marché. Dieu a donné la loi. C'est dit que ça allait être certainement bien, puisqu'à partir du moment, fais ceci, fais pas cela, fais pas ça, donc il n'y a plus qu'à s'assoyer, c'est notre code de la route. Hein? Si tu as un sens interdit, tu ne vas pas, mais moi je suis libre, je vais dans le sens interdit. S'il n'y a pas de gendarme au bout, tant mieux pour toi. S'il y a un fou, un qui est dans son bon droit, qui vient devant et qui dit je te laisse pas passer, hein, ça fait de la friction. Hein? Et puis, s'il n'y a rien, ni vu, ni pas connu. Hein? Mais il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Forcément, à un moment donné. Alors, puisque la loi n'a pas marché, c'était très compliqué à mettre en place, trop dur pour les hommes et les femmes, alors Dieu a dit, pour employer les grands moyens, je vais envoyer mon fils. C'est vite résumé, hein, l'histoire de la Bible, hein. Eh oui. Il dit maintenant, puisque votre conscience, vous l'avez tuée, vous ne savez même plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, hein, vous ne reconnaissez même plus votre droite de votre gauche, je vous ai donné une loi, vous êtes incapable de l'appliquer, et en franchement parler, je ne sais pas qui aujourd'hui pourrait appliquer la loi, pas moi surtout. Hein. Et puis, maintenant, puisque ça ne marche pas, eh bien, on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est moi qui vais descendre par mon propre fils. Et maintenant, vous serez sous la grâce. C'est cela, Christ, le deuxième Adam, qui est venu par son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui nous donne la vie. Envie de vivre la foi, de vivre accompagné avec Dieu, de vivre, j'allais dire, par l'esprit, j'allais dire la joie de sa parole, cet esprit de vie qui cherche avec ardeur notre être, j'allais dire, humain, pour lui rendre la vie en le convaincant de péché et en l'amenant à la repentance. Waouh ! Quelle œuvre ! Parce que Dieu ne perd pas le fil hein, de ce qu'il dit, même s'il a changé au cours des millénaires les choses, son désir, premièrement, c'est de sauver les hommes. Il a voulu le faire, comme je l'ai dit, par la conscience, il a voulu le faire par la loi, maintenant il le fait par la grâce. C'est-à-dire que maintenant, chacun est libre. Tu choisis. Rappelez-vous, il avait dit dans Deutéronome, tu choisis. Hein? Mais la sentence, elle était dure. Tandis que là, ben, la grâce, il y a un moyen de pardon. Parce qu'à l'époque, tu péchais, tu étais coupable, tu étais condamné, il fallait payer. Tandis que là, ben, tu as péché, tu n'as rien à payer parce qu'il y en a un qui a payé pour toi. Vous trouvez pas que c'est merveilleux, quoi? C'est pourquoi vous êtes, vous et moi, ici, ce matin. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Nicodème était de la loi, mais non de l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi je le dis encore à nouveau. L'homme, j'allais dire, ou le chrétien charnel, eh bien, il ne peut pas marcher dans l'esprit. Il faut vraiment cette révélation d'esprit où il soit convaincu. C'est important. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important. Mais béni soit le Seigneur. Christ est venu avec un esprit de pardon, un esprit de paix. Et c'est important. Et c'est pourquoi nous devons nous laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Accepter le sacrifice de Christ. Et c'est pourquoi la croix est importante. Je dis, la croix doit être le départ de notre marche chrétienne, de réaliser là ce que Christ a fait pour moi, personnellement. Et souvent dit, et je le redis encore ce matin, même si j'avais été le seul pécheur sur la terre, Christ serait venu pour me sauver. Et cela, j'en suis infiniment reconnaissant. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude d'hommes et de femmes qui peuvent venir à la grâce, qu'une multitude d'hommes et de femmes sont venus à la grâce. Mais je me dis que si moi seul, j'étais le pécheur sur la terre, Christ serait venu pour me sauver. Parce que tout est là, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Oui, c'est pourquoi il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous avez Christ dans votre cœur? Non pas de par la loi, mais de par la grâce. Non pas par la lettre, mais par l'esprit. Non pas par une adhésion, j'allais dire, à quelque chose, mais par une révélation. C'est cela, une vraie conversion à Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on peut le suivre. Quand Jésus a dit Nicodème, suis-moi. C'est important. Et Nicodème a suivi Jésus. Gloire à son nom. Oui, le Seigneur nous incite à le rechercher. À le rechercher davantage. Et c'est vrai que dans notre marche chrétienne, nous ne sommes pas tous au même niveau. Mais nous marchons ensemble, c'est ça qui est important, de continuer à marcher ensemble. Et c'est vrai que dans notre marche, eh bien, Dieu veut se révéler à notre cœur, Dieu veut révéler sa parole dans notre cœur, non pas comme une lettre, mais véritablement avec son esprit, pour nous faire comprendre, eh bien, j'allais dire, les intentions de Dieu par Jésus-Christ pour notre propre vie, pour que notre vie spirituelle puisse grandir chaque jour. Et j'ai envie de grandir chaque jour. Quel est le parent qui ne s'inquiéterait pas s'il ne voit pas son enfant grandir? Il se poserait des questions. Alors, est-ce que ma vie spirituelle me convient? Je suis sauvé par grâce? J'ai un strapontin dans le ciel? Ça me suffit? Je vais vous dire, pour passer une éternité sur un strapontin, c'est difficile. Quand vous passez une heure avec moi sur une chaise, c'est parfois compliqué. Mais alors là, un strapontin pour l'éternité, mes frères et sœurs, il faudra trouver mieux, quoi. Vous ne trouvez pas?
Un fauteuil. Hein?
Et oui, je vais arrêter là mon message, parce que le prochain, il est plutôt, j'allais dire, un constat attristant. Hein? Donc, on peut en laisser pour la bonne bouche pour la prochaine fois. Pour une fois, je vais essayer d'être court. Prions le Seigneur. Seigneur, comment ne pas te bénir pour ton amour et ta grâce. Merci parce que c'est vrai, je peux comprendre cet homme, Nicodème, qui d'un seul coup a dû remettre en cause toute sa, toute sa vie. Il croyait, mordicus, que la loi de Dieu était quelque chose qu'il fallait suivre à la lettre. Et sans doute, il a dû s'appliquer toute sa vie, et certainement de ce côté-là, il n'y avait peut-être sûrement rien à reprocher à cet homme. Mais en fait, il était un religieux, quoi. On lui demandait de faire cela, il le faisait. Puisqu'on me le demandait, je le fais. Sans réfléchir, plus loin. Mais Christ est venu, et je te bénis. Et je bénis aussi ce témoignage de cet homme, parce que il a rencontré le Christ. Et c'est vrai que cette rencontre du Christ a changé sa vie, bouleversé sa vie. Ça ne nous interdit pas de nous poser des questions les uns les autres, hein, avec juste raison. Mais nous voyons que ta parole, elle est claire, elle est précise. Et elle nous emmène dans un chemin de vie, où l'Esprit se manifeste, où l'Esprit se révèle. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin de la révélation de Dieu. Et c'est vrai que quand je me suis converti, je ne connaissais rien de Dieu. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à connaître. J'ai appris à connaître Christ. J'ai appris à connaître son amour, son immense amour. Et sans doute, je ne connais encore même pas grand-chose de cet amour-là. Mais Seigneur, j'ai envie de le connaître encore davantage. Toi, le Seigneur, le Sauveur. Toi, mon Seigneur. Alors sois béni, Seigneur. Bénis ce matin chacun de mes frères et sœurs ici présents. Que ta grâce soit sur chacun d'eux. Que la révélation du Christ, que la révélation du Saint-Esprit vienne sur eux avec puissance, Seigneur notre Dieu. Pour que cela déclenche quelque chose de nouveau pour eux, pour leur progression dans leur marche de chaque jour, et avec une victoire au bout. Seigneur Jésus, la victoire, tu l'as remportée. Tu l'as remportée sur la mort. Seigneur, nous sommes des êtres changés, nouveaux. Aujourd'hui, je ne suis pas mort spirituellement. Et, Seigneur, je suis né le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, le jour où j'ai donné mon cœur, le jour où je me suis engagé dans les eaux du baptême, le jour où j'ai décidé de marcher chaque jour avec toi, même si cela n'a pas été facile tous les jours, mais tu as été là sans cesse. Et je te bénis, Seigneur, et je te loue. Merci de nous avoir donné l'Église pour que nous puissions être soutenus, encouragés, fortifiés, pour pouvoir aller de l'avant. Seigneur, oh, que ta grâce est merveilleuse, ton amour est immense. Comment ne pas te bénir ce matin? À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, continuons à grandir dans la grâce.